Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours aussi ravi de vous retrouver comme chaque lundi soir, 19h-20h30 sur Mon Paris FM. Alors, beaucoup d'événements ce soir, on va beaucoup parler de Paralympique avec des invités que l'on attend, notamment Adrien Balduzzi, donc le président du comité d'organisation des prochains paramondiaux d'athlétisme qu'ils dérouleront en juillet prochain. On devrait aussi avoir Élie Patrijon qui va arriver, donc du comité paralympique, qui va arriver aux alentours de 19h30. Et puis, on a notre ami donc Fosco Perinti qui représente le comité départemental olympique et sportif. Bonsoir Fosco, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui, je précise juste que ce n'est pas le comité olympique, mais
comité départemental,
départemental handisport.
Ouais, voilà, c'est ça, handisport, bien sûr. Hein. Et puis, fidèle à la tradition aussi, on va avoir de la vidéo ce soir. On va commencer par l'actu foot avec notre ami Eladji, que je salue. Bonsoir Eladji.
Bonsoir Philippe.
Ça va, pleine
ça
forme
va. Ça va, en pleine forme.
Alors,
et toi, ça va.
Il y a un match de l'équipe de France, donc vers 20h45, hein, donc on aura fini. On va naturellement revenir sur le chapitre de cette équipe de France. On peut dire que rentrée très réussie pour l'équipe de France, après donc sa victoire vendredi contre les Pays-Bas 4-0. Aujourd'hui, c'est à Dublin, là où le rugby a été battu. Hein, donc on espère que l'équipe de France sera aussi inspirée que vendredi soir.
On espère. Bon, ça a très bien commencé avec un nouveau capitaine d'ailleurs qu'on a eu à la tête des Bleus, Kylian Mbappé. Bon, moi, ça m'a un peu. Je me posais la question, ça devait être soit lui, soit Griezmann, mais je m'attendais plus à ce que ça soit Griezmann puisque ça fait plus longtemps qu'il est là et il est plus capé, etc. Mais bon, ils l'ont remis à Kylian Mbappé. Je pense que c'est pas plus mal. En tout cas, le premier match, on a vu la dynamique que les Français ont mis dès l'entame du match et franchement, ils ont tout simplement écrasé le Pays-Bas et 3-0 à la mi-temps, 4-0, un pénalty arrêté de Mike Maignan, ce que Hugo Lloris n'avait pas fait depuis 11 ans. Ça paraît. C'est assez fou et moi, ça me plaît de voir une équipe de France comme ça, aussi conquérante. Et je me dis, avec les prochaines GC Anciers, je pense que on va avoir du très beau jeu.
Oui, Mbappé l'a dit aujourd'hui, là, cet après-midi, en déclaration, il a dit que finalement, c'est une génération qui est plutôt prometteuse, donc tant mieux pour nous, hein.
C'est ça, tant mieux pour nous, c'est une génération qui est prometteuse. Il a dit c'est plus facile quand on joue dans une belle équipe. Voilà, il a tout simplement dit, je pense que ça a fait un peu référence avec son club quand il est avec le Paris Saint-Germain et on voit que l'équipe est un peu en dessous et comparé à l'équipe de France, il a dit on n'a pas peur de le dire. On joue dans les meilleurs clubs du monde, on a des joueurs très talentueux, jeunes, très fort et on est favori pour les prochains titres et pour les prochaines Coupes d'Europe ou Coupes du Monde même et on se cache pas et on va le montrer. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait en tout cas dès le premier match.
C'est un bon choix, Mbappé capitaine, par rapport à Grisou.
Un bon choix, oui et non, je dirais. Moi, en tout cas, je suis pas contre, quoi. Ça m'a surpris parce que je pensais que Griezmann allait être le capitaine. Mais on s'y fait. Hein. On voit bien Kylian Mbappé. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de joueur comme ça en France. Kylian Mbappé, le talent qu'il est, c'est tout simplement l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde actuellement. Je pense que c'est mérité aussi.
Et puis, est-ce qu'on peut craindre du match d'aujourd'hui? C'est un match piège, non?
Franchement?
Non.
Non. Voilà, franchement, je pense pas que c'est un match piège. Là, on a vu en tout cas comment ils ont déroulé face aux Pays-Bas sans vraiment forcer, parce qu'on a vu, hein, c'était vraiment sans forcer. Et là, je pense l'Irlande qui sont bien en dessous des Basques, même si les Basques avaient beaucoup de blessés, l'Irlande qui sont bien en dessous, et je pense qu'on n'aura pas de difficulté à battre les Irlandais ce soir.
Très bien, je te coupe. On a nos invités qui viennent d'arriver dans le studio. Adrien Balduzzi, c'est ça?
Exactement,
bonjour à tous. Bonsoir Adrien, directeur, j'allais dire, des mondiaux du Paris. para-athlétisme 2023.
Exactement.
Très bien. Donc on va largement consacrer cette deuxième partie d'émission au para-athlétisme. Et puis vous êtes aussi venu avec un invité que je vous demande de présenter.
Oh oui, je suis venu avec Paul Fitzgerald. Donc c'est une petite surprise. Voilà. Et Paul est donc un Américain et c'est le head of...
Un Américain. Donc il parle un tout petit peu anglais.
Exactement. Mais je pourrais faire la traduction.
Ouais, bon.
Mais c'est le head of World Para-Athletics. Donc c'est le directeur de la Fédération Internationale qui gère tout le para-athlétisme dans le monde entier.
Ils sont en visite
avec nous. Je dis, on va venir ensemble vous voir à mon Paris FM.
Ouais, ouais, bien sûr. Thank you for coming.
Ouais. Merci.
Voilà, ok.
Désolé pour mon français.
Thank you for coming. Ouais, ouais. Donc, on va reprendre. Donc, vous aimez le foot ?
On adore le foot.
Ah bah c'est bien, vous allez pouvoir participer.
And Paul was in the UFA before.
D'accord. Ouais. Un petit mot, l'équipe de France donc, qui joue tout à l'heure, là, à 20h45. Bon, nous, on a suivi le mondial ensemble. Hein. On peut être plutôt optimiste par la prestation de l'équipe de France.
Ah bah je pense oui, normalement ça devrait être
une nouvelle génération qui se reconstruit.
C'est ça, et puis comme tu l'as dit juste avant, je pense que ça devrait dérouler. On a battu les plus forts du groupe avec nous à 4-0, donc après on sait jamais, mais ça devrait aller.
Faut venger le rugby parce que ça
faut venger le rugby aussi du coup
au stade Aviva ça.
Et voilà, attention parce que s'ils ont une revanche à prendre, apparemment ils sont encore revanchards depuis la main de Thierry Henry.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, le coach qui a montré la vidéo à tout son vestiaire pour essayer de les motiver avant ce match-là, mais on verra bien si ça suffira ou pas.
Voilà, en tout cas, la Grèce a battu le Gibraltar 3-0, donc c'est la tête du groupe qui va se jouer ce soir avec l'autre match, Pays-Bas-Gibraltar.
Oui, je pense que les Pays-Bas ne vont pas avoir trop de difficultés à battre le Gibraltar, en vue des doubles confrontations qu'ils ont déjà eues, 6-0 et 7-0. Je pense que, ça, à part grande surprise, je pense que le Pays-Bas vont s'imposer largement.
Et ensuite, donc, au mois de juin, on finira la saison avec justement des matchs contre Gibraltar et contre la Grèce.
Oui, deux matchs très abordables.
Absolument. Ouais. Allez, les autres résultats, donc, on a vu notamment l'Espagne qui a battu la Norvège 3-0, l'Angleterre qui est allée gagner en Italie, je suis désolé pour l'ami Fosco, donc, qui est allée gagner en Italie 2-1, l'Angleterre qui a aussi battu l'Ukraine 2-0, victoire de la Belgique en Suède 3-0, et puis l'Italie s'est quand même refait la santé en battant Malte 2-0, et nette victoire du Portugal au Luxembourg 6-0, et devant le Liechtenstein 4-0. Ces résultats,
c'est des résultats un peu logiques, quoi. À part la Croatie qui ont fait un faux pas contre, qui se sont fait piéger à la dernière seconde sur la seule frappe cadrée du match. À part ça, la Croatie, tout le reste, la logique a été suivie dans tous les autres matchs.
Oui, parce que des fois, on a du mal à repartir après une grande échéance. Hein. C'est pas parce qu'on a fait une belle Coupe du Monde qu'on part bien pour des qualifications à l'Euro et vice-versa. On l'a vu avec l'Italie, malheureusement.
Après, on voit bien, ça fait un moment que la Croatie, ils ont un beau jeu, mais ils n'ont pas de grands attaquants. Ils construisent énormément, mais devant les cages, ils n'arrivent pas à finir. Ils ont fini à 18 tirs, dont 9 cadrés et un but. C'est très faible, quoi. C'est très faible. Ils ont dominé le match de la tête aux pieds. La dernière action, ça s'est joué sur une touche, un joueur qui a été oublié au deuxième poteau, un but à la dernière seconde. Voilà, c'est le triste sort que les Croates ont et subissent souvent, comme on a pu le voir aussi contre l'Argentine aussi. Ils ont dominé le match, mais c'est pas ce qui a fait qu'ils ont gagné. Ils n'arrivaient pas à concrétiser devant.
On va saluer Valentin qui vient aussi d'arriver.
Salut Philippe, ça va, bonjour.
Salut.
Tout le monde.
Bon, toi, un petit mot sur la rentrée d'équipe de France, vainqueur 4-0 et ce match, donc, à 20h45, vous écoutez mon Paris Sport et après vous pouvez regarder le match sans aucun problème. Voilà.
Un match, une victoire, on ne s'attendait pas quand même à un aussi gros score. On sait que les Pays-Bas étaient quand même démunis, il leur manquait beaucoup de cadres. On était étonnés de voir l'équipe de France jouer un aussi beau football. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça dans les matchs comme ça. Ce soir, ça peut être simple, comme ils peuvent nous faire le coup, comme ils nous font à chaque fois, le 1-0 ou 0-0 compliqué. J'espère pas, franchement. J'espère qu'on est reparti sur une bonne dynamique. Il y a quand même un nouveau jeu qui a été... On est plus porté vers l'attaque, j'ai l'impression. Donc franchement, et puis comme le dit Eladj, les Irlandais, ils n'ont toujours pas oublié la main de Thierry Henry, ils l'oublieront jamais, et ils ont toujours leur revanche à prendre. Du moment qu'ils ne nous auront pas mis 3-0, je pense, un jour, ou dans une phase éliminatoire ou quelque chose comme ça, ils n'arriveront pas à passer outre, ce qui est normal, hein, on serait pareil. Mais la rentrée s'est bien passée, on espère que ça va continuer.
Donc ça devrait le faire, mais attention toutefois. Voilà. Allez, on parle du national. Hein, 26e journée avec la victoire du Paris Atlético 13 qui a gagné 1-0.
Enfin.
Ouais.
Enfin, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Ouais. Enfin, la victoire qui redonne un peu espoir malgré leur classement quand même, parce que on voit là
avant-dernier hein, ça va être compliqué
avant-dernier
quand même,
hein. Ils ont un match en retard
qui joue demain d'ailleurs, demain soir à Charity,
qui joue demain contre le Red Star, c'est ça. Mais 7 points de retard sur le premier non relégable à peu près à 10 journées de la fin. Ouais. Ça va être très compliqué.
Alors Versailles a fait match nul à Cholet, un partout. Le Red Star justement s'est imposé devant Orléans 2-1. Match nul entre Villefranche, Beaujolais, Concarneau, un partout. Et puis donc effectivement Martigues-Le-Mans ce soir à 18h30.
Oui, avant... Martigues qui sont déjà en train de gagner 2-1.
Ah, ils sont en train de... Ah oui, c'est important hein, parce que c'est une équipe qui joue la
qui
montée.
Joue la montée.
Hein.
Là, ils reprennent la place de leader. Et oui, c'est pour ça. L'instant.
Et demain, donc, il y aura Nancy, Concarneau et Paris Atlético Red Star à 19h30 à Charletti. Donc, Versailles-Martigues en tête avant là, donc, le match de Martigues avec 44 points. Troisième, Concarneau, Dunkerque, 43. Cinquième, Red Star, 42. Seizième, donc, Saint-Brieuc et le Paris Atlético avec 23 points. Et 18e, donc, Borgo, 21 points.
C'est ça. Bon, je pense que... Les jeux sont faits, en tout cas beaucoup quand même, même si ça reste un peu serré. Je pense qu'il y a une, deux équipes qui arriveront peut-être à s'échapper de la relégation et qui arriveront peut-être à passer en Ligue 2 de l'autre côté. Mais ça va être très serré, ça va jouer jusqu'au bout. Quoi.
Alors on va dire donc à notre ami Adrien que le Paris Atlético, c'est le club local, c'est le club des Gobelins. Hein.
Ah, je connais très bien parce que... Et alors pour,
nous aussi.
J'y ai joué quand j'étais gamin.
Ah bah voilà, voilà. Comme tout le monde, comme tout le monde. Comme tout
je suis un gamin du 13e et j'ai joué là-bas. Oui.
C'est ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile cette année quand même, pour le national, hein. Ouais. Malheureusement. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est un grand gap à passer, hein. On passe chez, entre guillemets, dans le milieu professionnel presque.
C'est ça.
Et il faut tenir la cadence. Ouais.
Ouais. Bah, après, surtout qu'on on est monté la mauvaise période, parce que cette saison, il y a 6 descentes.
Eh oui.
Du coup, depuis la nouvelle réforme, c'est pour ça que voilà, on est monté la mauvaise année un peu, je pense.
Vous allez voir le Paris FC aussi. Bon, il n'y avait pas de Ligue 2 ce week-end, mais vous allez voir aussi le Paris FC.
J'y vais de temps en temps, parce qu'en plus, on a le...
Bah oui, vous allez... Hein,
on est dedans, on est dans le stade. Donc on y va, et Pierre Ferracci, à travers ses entreprises aussi, est partenaire de l'événement des Mondiaux
bien,
de parathlétisme.
C'est bien.
Donc oui, on se connaît bien et on échange régulièrement.
Allez, on passe aux féminines aussi. Hein. Ça n'a pas été une bonne semaine pour les féminines.
Du tout.
En Ligue des Champions. Oui, hein. Lyon battu à domicile 1-0 par Chelsea, et le Paris Saint-Germain, pareil, battu 1-0 par des Princes, par Wolfsburg, 1-0. On peut être optimiste malgré tout cette semaine pour les matchs, retour.
Je pense que le Paris Saint-Germain contre Wolfsburg, ça va être compliqué. Voilà, j'aurais plus dit que Lyon, ils peuvent inverser la tendance. Même eux, attention, parce que le match aller, ils étaient favoris, c'était grandement favoris. Et à domicile, ils devaient s'imposer. Voilà, et ils ne sont pas imposés, ils ont perdu sur le score de 1-0. Match retour, ils devront... Moi, je pense qu'il y a un peu d'espoir pour Lyon, mais côté Paris Saint-Germain, je pense que les carottes sont cuites.
Ah, d'accord, ok.
Après, c'est que mon avis.
Bien sûr.
En espérant que je me trompe.
Bah oui. Bon, le sport féminin, c'est hyper important. On en parle régulièrement, y compris dans le foot féminin.
Ah oui, totalement. Il faut que toutes les disciplines s'y mettent à tendre vers l'égalité. Après, on connaît les cultures de certains sports, c'est plus ou moins difficile. Mais en tout cas, oui, ça devrait être la normalité.
Ouais. Valentin, tu es optimiste toi, pour les équipes françaises, pour ces matchs retour de Ligue des Champions. Faut pas qu'elles imitent nos clubs masculins Coupe d'Europe. Hein.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que... et là, j'ai très bien résumé. Lyon, il y a quand même un espoir. 1-0, c'est une petite marque. Tu peux... Au match retour, on connaît quand même les qualités de Lyon depuis quelques années en féminine. Par contre, pour ce qui est le Paris Saint-Germain, là, ça... Je pense que ça va être quand même compliqué parce que c'est quand même en face une grosse équipe. Si t'as pas réussi au Parc à faire ce qu'il fallait au retour, moi franchement j'espère qu'elles vont réussir à faire quelque chose. Ça serait magnifique. Mais là ça m'a l'air très très compliqué franchement pour le match retour. Donc on espère, mais on n'est pas convaincu 100% de leur qualification. C'est dommage de faire comme les hommes.
En tout cas, donc, on le saura cette semaine. Et en championnat, eh bien, le Paris FC est allé faire nul à Bordeaux 1-1. C'était la 17e journée du championnat féminin. Lyon a battu Guingamp 6-0 et victoire du PSG à Montpellier 1-0. Lyon toujours en tête à 46 points devant le PSG 45. Troisième, le Paris FC 34. Et la GIL, c'est toujours la même chose.
Hein, c'est toujours la même chose. On attend le match retour. Le duel Lyon-Paris Saint-Germain, parce que le reste, il n'y a pas vraiment d'opposition à part de grosses fautes professionnel, que ça soit du PSG ou de Lyon, je pense que tout se jouera au match retour.
Très bien. Voilà pour l'actu foot, c'était à peu près là. T'as autre chose à rajouter?
J'avais un
t'as
petit coup de
cœur. Coup de gueule,
j'avais un petit coup de cœur pour Chelsea. Ah oui. Chelsea qui ont organisé un tour pour les musulmans, qui ont organisé le stade, et c'est une première dans le football mondial, c'est une première, qui ont organisé un petit repas avec des petites dates. Voilà, le tour, c'est pour ceux qui coupent le jeûne pendant le mois du Ramadan. Et voilà, ça a fait ce petit coup de cœur. Et ils ont mis aussi en place une petite pause. Quand, à la reprise du championnat, il y aurait une petite pause pour que les jeûneurs puissent couper leur jeûne pendant un match de foot, quoi. Et ce que je trouve très très bien, et j'espère que d'autres championnats prendront exemple dessus.
Alors, je ne sais pas si notre ami Stéphane nous a envoyé dans son coup de cœur, coup de gueule. En attendant, on va revenir un tout petit peu sur la boxe. Hein. On en avait parlé la semaine dernière, donc avec Bakary Samaké, qui est devenu champion du monde des poids super welter. Il était notre invité donc, il y a 15 jours. On avait vu son combat. On a eu donc des interviews. Alors, on va écouter la première interview qu'on vous a donc ramenée. C'est le directeur de cabinet du maire de Gagny qui nous parle notamment de la politique sportive de sa vie.
Avec Julien Mugerin, le directeur du cabinet de monsieur le maire de Gagny. Très belle soirée boxe.
Superbe soirée, et en plus elle se termine bien avec notre champion local qui l'emporte au final.
Ouais. De tels rayons, ça s'organise facilement?
Alors, c'est Issa, le papa de Bakary, qui est venu vers nous pour organiser cet événement. Ils sont venus avec leur production, avec de gros moyens, qui étaient tout à fait impressionnants. Et ça s'est très, très bien passé. Tout s'est très bien déroulé. Nous, la ville de Gagny a mis à disposition le complexe sportif Arena Léon-Yves Bohain. Un peu de matériel, un peu de bonne volonté aussi. On a voulu les accompagner jusqu'au bout pour pouvoir faire en sorte que cet événement se passe dans les meilleures conditions.
Oui. Ça prend combien de temps de préparation? 6 mois, 8 mois, un an?
On a été approché, on va dire, il y a 2 ou 3 mois, et puis le temps que les choses se mettent en place. Mais écoutez, ça, voilà.
Bon, j'ai envie de dire que ce soir, c'était toute une ville qui était derrière son boxeur.
Absolument. On a entendu dans les gradins des Bakary, Bakary, des tuleux aussi, c'était pas top, mais bon, ça fait partie du jeu, voilà, c'est le sport qui veut ça. Effectivement, toute la salle était derrière Bakary. Dès qu'il le frappait fort, dès qu'il frappait bien, mais on avait toute la salle qui se levait, c'était magnifique.
Oui. Alors maintenant, ça va être une idole, hein, dans Gagny. On va le reconnaître dans la rue, il va signer des autographes.
Ah bah, je ne sais pas si vous avez vu ce soir, mais il est déjà bien reconnu, notamment dans son quartier. Et même au-delà de ça, parce que ce soir dans la salle, vous aviez des habitants de tous les quartiers qui sont venus soutenir leur champion.
Oui, puis c'est un bel exemple pour tous ces jeunes, un beau modèle.
C'est un bel exemple parce que les valeurs du sport, les valeurs de la boxe anglaise en particulier, sont de belles valeurs, avec celle du respect, celle des règles. Voilà, on ne se bat pas n'importe comment dans la rue, on se bat autour d'un ring avec des règles, avec un arbitre qui fixe la limite.
Dans la politique municipale de Gagny, le sport est très important.
Bien sûr, on a énormément d'infrastructures sportives, on a une politique sportive qui permet de mettre en place des animations. Et bien sûr, on soutient notre club sportif, l'USMG.
Ouais, quels sont les sports les plus importants?
Alors, on a beaucoup de foot, évidemment.
Ouais. On se rappelle du hand, nous, à notre époque.
Hein. Pardon?
On se rappelle du hand à notre époque.
Le handball aussi, qui reste très important sur la commune. On a énormément de... On a le tennis qui est très présent. On a plusieurs disciplines qui se battent bien.
Bon, le prochain grand rendez-vous sportif sur Gagny, c'est lequel?
Le prochain grand rendez-vous sportif, là tout de suite...
prochain combat de...
À la hauteur de ce gars-là, c'est pas prévu tout de suite. Ouais. Mais les associations sont riches de grands événements. Et on les rencontre bien sûr au Forum des associations.
Très bien, merci en tout cas.
Merci à vous.
Voilà pour donc Julien Mugerin, donc le directeur du cabinet du maire de Gagny. C'est vrai, 2500 quand même spectateurs, ça a été une belle soirée. On l'a dit la semaine dernière, hein. On l'a répété, on avait promis de vous passer ces interviews. Et puis c'est promis juré, Bakary, il reviendra avec sa médaille de champion du monde après sa victoire contre l'Argentin Lucas Batista au point. Allez, on va écouter justement Bakary Samaké, juste à sa descente de ring, allez, quelques minutes après avoir concrétisé son rêve. Bakary, c'est fait. Il est là, ce titre de champion.
Il est là, il est à la maison. Il est à la maison. On s'est entraîné dur pour ça. On a fait une belle performance. Bon, c'est vrai que je voulais l'éteindre. Il était dur. C'est les Argentins, ils sont durs. Hein. Mais bon, c'était un gros test. Là, on a pu voir que les 10 rounds, je l'ai fait à l'aise. À l'aise, sans pression. Face à un mec qui met la pression. Et voilà, franchement, c'est le début d'une grande progression. Et voilà, c'est le début de ma carrière, je suis comme 11e combat. Je vais encore m'entraîner, je serai encore meilleur. Et voilà.
toujours invaincu. Puis au fil des rounds, vous avez été plus fort. On a senti que vous portiez plus les coups.
Exactement. J'étais plus précis. Défensivement, j'étais très bien. Et voilà.
Alors, à quoi pense-t-on ce soir? On pense à toute la famille, à toutes les heures qu'on passe pour s'entraîner, pour aller chercher ce titre de champion du monde.
Exactement, on pense à la famille, toutes ces heures passées à la salle, toutes ces heures de souffrance, là. Et voilà.
Ouais. Et puis tous ceux aussi qui vous ont encouragé derrière, hein, toute une ville qui était derrière.
Bien sûr que oui, c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi. Et je les remercie vraiment pour le soutien.
Ouais. Et puis vous êtes une véritable idole, vous allez signer des autographes maintenant dans Gagny. Hein.
Ah ouais. Hein. Ouais, voilà, c'est aujourd'hui vous parlez?
Ah non, mais dans les prochains jours.
Ah, les prochains jours, sûrement, je sais pas.
Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Un peu de repos, on va savourer avant de se remettre en route.
Ouais, un peu de repos, on va 2-3 jours de repos. Ouais. On continue l'entraînement. Ouais. On continue l'entraînement, on lâche pas le steak. Et voilà.
Bon, ce soir on va fêter ça quand même, hein, un peu.
On va fêter ça doucement. Et on va fêter ça avec la famille.
C'est bien. Merci en tout cas, Bakary.
Merci à vous.
Voilà, et puis bravo, puis il reviendra, il nous a promis donc avec sa ceinture de champion du monde d'ici quelques semaines. On aura une belle photo, toi qui le connais bien, hein, donc victoire logique, et puis c'est le rêve d'une vie qui s'est concrétisé.
Victoire logique, voilà, après moi je le suivais déjà depuis un moment, je vois qu'il s'entraîne souvent, franchement il est dans des bonnes dispositions, il n'est pas dispersé vraiment, il reste focus sur ce qu'il sait faire le mieux, la boxe et boxer, et on a assisté à un très beau match de boxe.
Une belle réunion, voilà, plus, hein, 2500 oui. spectateurs, c'est quand même... Et comme le disait le directeur du cabinet, mettre ça sur pied, chapeau. Hein.
Ah oui, non, chapeau à son père aussi qui s'est occupé de l'organisation et qui est son coach aussi, voilà, franchement, il avait une bonne préparation, il nous a offert un bon combat, voilà, ça a été un combat équilibré, même s'il avait le dessus. Et voilà, franchement, on lui souhaite le meilleur pour la suite.
Valentin, on en a parlé la semaine dernière du combat déjà, hein.
On avait fait un long débrief.
Toi, tu as assisté à son échauffement, son entraînement.
Ouais, j'ai vu l'échauffement même de l'Argentin qui était dans une petite salle, un petit vestiaire. Mais ça se voyait qu'il était prêt à aucun moment. Les caméras, parce qu'on était plusieurs journalistes à le couvrir, il y avait RMC Sport, le Parisien. Oui. Il était dans son match, il était déjà dedans. Il regardait des compilations de Mike Tyson, si vous voulez savoir, sur YouTube. Il regardait avec une compile, avec une musique de 50 Cent. Ouais. Et il était à fond dedans, ça se voyait. Il n'avait aucune pression, vraiment, il rigolait. Il était déjà prêt avant l'heure, alors que l'Argentin, on le sentait un peu... Il a attendu longtemps pour commencer à mettre ses gants et se préparer. C'est ce qui m'avait étonné. Et puis après, on a vu le match. C'était un très beau match quand même, malgré tout. Mais bon, heureusement pour Bakary, ça a tourné en sa faveur. Et il a montré, comme il le dit, qu'il a tenu 10 rounds. Et franchement, on n'a pas vu de fatigue. Donc c'est très encourageant pour la suite. Rounds, hein, c'est,
ça. Ouais. C'est ça. Et moi, je suis d'accord avec le décompte des juges. Fosco, vous aimez la boxe? Non, pas trop. L'homme du tennis de table et puis dans le sport.
Non, régulièrement.
Ouais.
Je ne la suis pas régulièrement, mais j'ai entendu parler, j'ai suivi ce combat.
Très bien. Adrien, tous les sports vous passionnent.
Tous les sports, ouais. Après j'avoue que je ne suis pas dans le détail, pas votre expertise. Sports, hein. Mais par contre, oui, j'avoue que c'est un beau succès français et il faut le saluer.
Très bien. Allez, on va écouter la première pause musicale. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va parler des Mondiaux Paralympiques, hein, l'événement phare donc pour le paralympisme un an avant les Jeux. Donc c'est Téléphone un autre monde et ensuite on rentre, comme promis, dans le vif du sujet.
Allez, on va donc, comme promis, avant de retrouver donc le coup de cœur, coup de gueule de notre ami du quotidien du sport.fr, Stéphane Desenclos, parler de ce qui va nous attendre au mois de juillet, du 8 juillet au 17 juillet, les paramondiaux d'athlétisme. Je suis donc avec Adrien Balduzzi. Et puis, on va aussi saluer Élie Pratijon, qui vient d'arriver, du comité olympique sportif paralympique, c'est ça
hein? Exactement, comité paralympique.
Oui, c'est ça. Français. Voilà. Absolument. Bonsoir en tout cas. Bonsoir. Ravi de vous accueillir pour parler un peu du paralympisme au cours de cette émission. Alors, d'abord, comment on se présente moins 100 jours, hein, bientôt. Hein.
Eh ben, je crois que, exactement, on va fêter le J-100 jeudi, si tout se passe bien. On croise
c'est une
les
grande
doigts.
Fête, c'est une grande fête. Oui, il n'y aura pas de grève.
C'est ça, voilà. On va croiser les doigts pour la partie grand public. Après, oui. Non, comment ça se présente aujourd'hui? Ça se présente plutôt bien. On a la Fédé internationale, donc World Paralympics, qui est là en ce moment pour contrôler justement nos états d'avancement sur les différents points. Pour l'instant, ils sont très contents. Et nous, on l'est aussi. Il y a un sujet d'engagement du grand public pour la billetterie. C'est comment on fédère et comment on engage les gens. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde a en tête qu'il y a ces championnats du monde, en tout cas sur l'écosystème parisien et francilien.
On va largement le développer dans l'émission.
Voilà, hein, mais effectivement, il y a ce côté comment maintenant on fait venir les gens dans le stade le jour J.
Eh oui. Alors, du 8 au 17 juillet, c'est une date qui est bien choisie. On est presque avant les vacances. Bon, il y a juste le Tour de France médiatiquement, voilà. Mais c'est une date qui est bien choisie.
Ben, alors, on l'a choisie effectivement parce qu'il n'y avait pas d'événements internationaux Tour de France, bien sûr, sur le sol français. C'était une des conditions d'accueil. Et après, c'est souvent en fin de saison. Donc oui, il faut que ce soit juillet, août, éventuellement début septembre. Mais on est sur ce pic de forme pour nos athlètes handi et de se dire voilà, il faut performer à un an des Jeux les mois de juillet...
Alors,
favorable.
Justement, vous êtes un VIP pour l'émission parce que vous étiez aujourd'hui à Charletti, au stade Charletti. En reconnaissance, tout va bien?
Alors, tout va bien. Il y a encore quelques détails à régler. Ouais. On est à 100 jours, donc il y a encore plein de choses.
Qu'est-ce qu'il faut régler comme détails, par exemple?
Ah bah là, aujourd'hui, on réglait la zone mixte, justement, pour vous accueillir, vous médias, de se dire combien on leur laisse de mètres carrés à chacun, quel service ils ont besoin à côté. Voilà, on a à peu près la densité de population, mais ça, les inscriptions, que ce soit pour les médias, pour les équipes et tout, sont en cours. Et donc, plus l'évolution des chiffres va bon train, plus il faut qu'on adapte les dispositifs. Donc, on a planifié pour un chiffre X. Est-ce qu'on sera Y ou Z? C'est ce qui nous reste à définir et c'est ces détails-là de toutes les modifications sur toutes les populations qu'on va accueillir qui nous reste à régler d'ici le 8 juillet.
Alors, on comprend l'anglais, on parle anglais, mais on va vous laisser. Donc, comment s'est passée la journée ensemble?
Paul, how the day today? Ouais.
How day to day?
Oh, fantastic. So this is the first time since 2019 we've held the World Championships. This is the first time World Championships has been held in the same city as a Paralympic Games the following year. So this is, I think, a lot of eyes on this event, which is fantastic. It's great for sport. It's great for people with disabilities and the stage that this can bring. So coming to town to work with a partner who we've worked with before, we know is fantastic at the organization of these events, so we're very excited and we're getting very close to the event, and we hope that all of Paris and all of France's eyes are on this event.
Alors, juste pour vous traduire rapidement.
Il est très content. Hein.
Voilà, il est très content. Il a dit que c'était fantastique.
C'est ça.
Et ce qui était à noter surtout, c'était que dans ce qu'il a dit, c'est que c'est la première fois qu'il y a un championnat du monde avant les Jeux dans la même ville.
Avant les Jeux Olympiques,
Et paralympiques dans la même ville, effectivement, et de se dire. Ça va être quelque chose d'extraordinaire et que ça valorise aussi le travail et la démocratisation pour les personnes en situation de handicap qui veulent faire du sport.
Alors justement, comment s'est fait le choix de Paris? Bon, vous avez candidaté, hein, je suppose que c'était probablement volontaire de vouloir ces Jeux paramondiaux un an avant.
Absolument. Alors, je vais pas parler à la place d'Adrien, mais Adrien était celui qui a porté.
Vous connaissez, donc vous.
Absolument. On se connaît, on s'entend bien. Et il a porté avec la Fédération française handisport le dossier de candidature. Ça nous a paru important de pousser cette candidature parce que, on vient de le dire, c'est juste un an avant les Jeux. Et les Jeux paralympiques, ils ont des enjeux assez considérables devant eux. Il va falloir remplir les stades, il va falloir que ce soit une fête populaire.
Oui.
Les Jeux olympiques sont un événement extrêmement mature, extrêmement puissant. Tout le monde connaît les Jeux olympiques, tout le monde connaît des athlètes olympiques. C'est pas vrai des Jeux paralympiques. Et donc, on a intérêt à avoir la meilleure stratégie avant, à la fois de préparer nos athlètes et les préparer à la maison. C'est évidemment quelque chose de fondamental. C'est une chance qu'on leur donne, mais aussi de populariser les sports paralympiques en amont. Et c'était ce qu'on a voulu faire en étant soutien de la Fédération française handisport dans cette candidature à l'organisation des mondiaux de paraathlétisme en 2023.
Oui. Mais Élie, le regard change quand même. On commence à voir quand même maintenant un peu plus de sports paralympiques. Bon, il y a eu la journée, on y était, hein, on en a parlé sur mon Paris FM, la journée paralympique donc du mois d'octobre à la Bastille. Ça commence quand même. Hein.
Oui, alors, vous savez, de notre point de vue, ça ne va jamais assez vite.
Oui, non, mais bien sûr.
Évidemment,
bien sûr.
Mais oui, bien sûr, ça change. En quelques années, la visibilité des athlètes paralympiques a considérablement évolué positivement. Ils ont plus de moyens pour se préparer, ils ont plus de soutien, ils ont plus de reconnaissance, plus de visibilité. Donc, évidemment, les choses changent. Il faut encore faire des progrès. On n'est pas tout à fait au bout du chemin, là, quand même. D'abord, il va falloir remplir les stades, on le disait. C'est le cas pour les mondiaux de paraathlétisme. Il faut que les gens ils aient envie de venir voir ce spectacle. C'est un spectacle incroyable. Quand vous n'avez jamais vu ça et que vous voyez ça pour la première fois, je vous assure que vous allez découvrir quelque chose d'absolument enthousiasmant parce que ce spectacle, il est un petit peu nouveau, mais en même temps, c'est d'abord et ça reste du sport. Et donc ça, il faut qu'on le fasse passer comme message. Ça va être une des conditions de la réussite de Paris 2024. Et puis, il faut qu'on continue à consolider un petit peu l'environnement autour des athlètes. Il n'est pas encore suffisamment professionnalisé, il n'est pas encore suffisamment costaud. Et tous ces événements-là qui arrivent vont nous permettre de progresser dans ce sens-là.
Alors, qu'est-ce qui reste à peaufiner, j'allais dire, 4 mois avant ces Jeux mondiaux? Il y a des petits détails qui restent encore à...
Ah oui, il y a beaucoup de petits détails, mais il y en a un essentiel, c'est effectivement la billetterie, on a parlé, et le deuxième, c'est l'accessibilité.
Oui.
On a beaucoup
RERB, de travail. RERB quand même.
Exactement, alors la station Cité Universitaire est accessible. Mais c'est vrai que même dans les hôtels, si on compare les organisations, par exemple les Jeux paralympiques, auront un village qui a été construit et pensé pour ça. Sur un chemin du monde et, ou autre compétition, même régionale, au niveau parasportif, il y a... des conditions d'accueil qui ne sont pas évidentes dans des hôtels qui aujourd'hui ne sont pas accessibles. Donc, dans les détails qu'on a réglés, je vous donne un exemple. Là, on va avoir 3000 personnes à accueillir, des délégations. C'est 600 fauteuils. Mmh. Voilà, les États-Unis, pour vous donner un exemple, 28 fauteuils juste pour les États-Unis. Et aujourd'hui, il n'y a en moyenne que 5 chambres PMR dans un hôtel. Donc, il va falloir, pas construire, mais adapter 23 chambres pour ces 28 fauteuils et de se dire, il y a 23 chambres qu'on va transformer en chambres PMR. Alors oui, ça ne va pas être totalement accessible, mais on va les rendre friendly accessibles et de se dire, on va rajouter un siège de douche, on va rajouter une barre de transfert. Et tous ces petits détails, et l'addition de ces petits détails, feront que l'expérience des athlètes sera la meilleure le jour J. Mais effectivement, aujourd'hui, pour chaque pays, il faut penser ça. Oui. Et quand vous avez 120 pays, alors ça fait une somme de détails.
En préparant l'émission, j'ai regardé donc, sur votre site, il y a 1700 athlètes, 800 officiels, et notamment dans le staff, il y a 120 pays. Ces gens-là, il va falloir... Il y a 217 médailles, je crois, aussi, de décerner, donc 172 en or. Ces gens-là, ils vont être logés où? Alors, il y a en face de la gare RERB, Cité Universitaire, il y a le Centre International.
Oui, alors...
Oui, mais ça ne suffira pas.
Non. En gros, il y a une trentaine d'hôtels de bouquets. Aujourd'hui, comme le disait Élie, il y a des pays plus ou moins professionnels. Donc, ça va du Centre International de Séjour jusqu'à du 5 étoiles. Il y a des pays comme les Angleterre, les États-Unis qui sont très matures sur la question et qui ont les moyens de se loger dans ces types de structures. Et en gros, on a un bassin d'hébergement qui va de Porte de Versailles jusqu'à Porte de Montreuil en passant par Bercy. Donc toute la banane. Et donc, pourquoi ces hôtels? Parce qu'il y a le tramway et que le tramway est accessible.
Vous n'avez pas des chauffeurs qui vont les chercher?
Alors si, on a des navettes, bien sûr. Faut savoir que le dispositif transport, ça sera une cinquantaine à 50 à 60 bus TPMR qui vont circuler H24 presque sur les routes parisiennes. Et puis en plus, la RATP qu'on a choisi en tant que prestataire de l'événement, qui va renforcer avec une trentaine de grands bus autocars de 60 places, qui vont tourner H24 pour véhiculer tous ces athlètes. Mais il est vrai que c'est un confort supplémentaire de leur dire, les navettes, c'est une chose, ça passe toutes les demi-heures par exemple, mais vous avez à côté le tramway et qui vous permet, un, de visiter Paris, deux, de venir au stade si jamais vous voulez venir voir vos copains quand vous n'êtes plus en compète.
Oui, parce que justement, sans bénévoles de réquisitionner, donc on peut encore s'inscrire comme bénévole, parce que justement, aller chercher les gens, les aider, ça demande de la main-d'œuvre.
Ah oui, alors c'est 100 chauffeurs, mais au total, c'est 2000 bénévoles.
2000 bénévoles
et 100 chauffeurs. Et les 2000, on les a. Ça, c'est la bonne nouvelle. On les a obtenus.
Ça vous intéresse pas?
Oui.
Bénévoles. Vous qui représentez le comité départemental.
Oui, absolument.
Du coup, il y en a.
Sur moi, j'ai un permis.
Non, mais, merci. Est-ce qu'il y a encore des. Bon, vous avez les bénévoles, mais si par exemple quelqu'un ce soir qui écoute l'émission ou qui veut être bénévole, est-ce que vous le prenez encore? Est-ce que c'est possible?
Alors oui, parce que oui. Bah, on, ouais. Déjà c'est possible, et ouais. Après il faudra voir ses disponibilités sur la, oui, sur la durée et autres. Oui, mais forcément, il reste. S'il y a des compétences et des talents, on est toujours ouvert à s'ouvrir aux autres. Et, et c'est d'ailleurs une de nos forces dans le paralympisme, c'est de se dire on est ouvert vers l'extérieur. Et donc, bah, on accepte tous les profils tant que les gens ont de la bonne volonté et des talents à nous proposer.
Oui, parce qu'en plus, il y aura 200 juges et puis je crois 11 000 repas
de service par jour. Ouais, 11 000 repas par jour.
C'est pour parler de toute la logistique quand même. Hein.
C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais ces championnats du monde de parathlétisme, c'est le deuxième plus grand événement après les Jeux paralympiques. Il n'y a rien de plus gros au niveau parasportif. Et pour vous donner une équivalence, c'est à peu près la moitié. La moitié des Jeux paralympiques, sauf qu'il y a une discipline, mais c'est la discipline qui regroupe le plus grand nombre d'athlètes et de pays. Donc, quand on fait athlétisme plus natation, en gros, on a quasiment même 80% des Jeux para, en termes de population, hein, pas en termes d'épreuves, mais en termes de population. Donc, c'est vrai que c'est une mini-répétition. Alors, nous, on ne veut pas utiliser forcément ce mot de répétition parce qu'on est un événement à part entière. Mais pour le coup, c'est vrai que sur certains sujets comme les aéroports, comme les transports, voilà, un certain nombre de services, même pour les athlètes, c'est une répétition à un an des Jeux. Voilà. Clairement, demain, il faudra se mettre au niveau, nous, par rapport à l'accessibilité, mais Paris 2024 aussi, sur l'enjeu que représente ce championnat du monde. Et on a beaucoup d'échanges avec eux.
Je propose le terme d'avant-première.
Oui, c'est une belle répétition. Oui, exactement. Avant-première. Toi, le comédien, c'est une belle répétition. Voilà. Hein. C'est la troisième fois qu'il y a des Jeux mondiaux paralympiques d'athlétisme. Hein. Il y a eu 2002 et puis 2013 à Lyon et 2002 Villeneuve-d'Ascq.
Oui, absolument. Bah, alors, oui. C'est pareil. Adrien, tu es déjà un des organisateurs en 2013. Déjà oui, absolument. Ouais. Il est jeune pourtant. Mais non, c'est important d'accueillir des grands événements de manière régulière. D'abord parce que c'est des compétences que vous allez acquérir et puis vous conserver dans l'organisation des grands événements sportifs. Ces compétences-là qu'on citait jusque-là, c'est-à-dire de dire il faut évidemment savoir organiser un événement sportif, mais il faut aussi savoir intégrer l'ensemble des spécificités liées au fait que ce sont des athlètes paralympiques, donc avec un handicap.
Bah oui,
évidemment. Et donc ça, c'est des compétences qui ne sont pas si répandues que ça, et on a besoin de les entretenir. Donc il faut absolument avoir cette stratégie en interne parce que ça nous permet de conserver ces compétences. Et puis, c'est un impact aussi très fort. La France est un très grand territoire de grands événements sportifs. Il faut qu'elle le soit aussi dans le domaine paralympique. C'est vrai sur l'athlétisme et c'est pas forcément vrai sur pas mal d'autres disciplines. Donc il faut qu'on continue cet effort, conserver l'athlétisme et puis avoir une stratégie très offensive sur les autres disciplines. La natation, le badminton, enfin bref, le triathlon, toutes ces disciplines qui vont en plus être assez pourvoyeuses de médailles en France, c'est aussi là que va se créer l'émulation pour les générations futures.
Oui, alors on va rappeler toutes sortes de handicaps, hein, paraplégique, déficience visuelle, amputé, infirme, également moteur cérébraux, hein, tout. Hein.
Déficience intellectuelle et déficience
Il faut reconnaître que... Alors, comment se fait un calendrier? Parce que 8 jours de compétition quand même.
Alors, comment se fait un calendrier? Bah, c'est assez simple, c'est la Fédé internationale qui nous dit, voilà, il vous faut... 9 jours avec un jour dédié aux qualifications et à la cérémonie d'ouverture, puis après 8 jours complète compétition. Et on se dit, dans ce créneau-là, il faut faire rentrer les 171 épreuves. Et donc, on va dire, aujourd'hui, il y a les 100 mètres plus la longueur. Donc, on est en échange régulier avec la Fédération internationale qui nous dit, le planning à peu près type. Et après, est-ce que vous avez des adaptations par rapport au stade, par rapport aux enjeux de télé aussi et de médiatisation?
Oui, alors on en parlait aussi tout à l'heure. Oui.
De se dire comment on met les athlètes français en valeur le soir et donc on modifie ce programme en conséquence avec la Fédération.
Parce que ça commence le 8 juillet. Ça, c'est les cérémonies d'ouverture.
Exactement. Premier jour, le matin.
Le samedi.
Le samedi matin, ce sera dédié aux qualifications. Donc les qualifications, c'est tous les concours et épreuves où il y a plus de 12 athlètes, en fait, pour faire simple, sur les lancers et les sauts, où on va faire des qualifications donc, pour décerner les 12 meilleurs qui pourront participer au final des différents grands. Et l'après-midi, c'est la cérémonie d'ouverture avec un show, on va aller faire un peu de teasing, mais un grand DJ connu, élus, les politiques, les défilés des délégations et tout ça.
Et puis, il y a un élément aussi dans l'attractivité qu'il faut soulever sur ces championnats du monde de parathlétisme. Vous achetez un billet, vous pouvez voir parfois l'après-midi plusieurs finales de 100 mètres, puisque vous avez plusieurs catégories de handicap. Et c'est ça aussi la vraie spécificité. C'est-à-dire que le spectacle que vous allez voir répété dans toutes les catégories. Et ça, c'est une des spécificités, une des singularités, mais aussi un des grands attraits de ces compétitions-là. C'est-à-dire que vous avez un spectacle extrêmement divers devant vous.
Ça rajoute, je veux juste rajouter un petit mot. Le sport déjà de base est, on peut des fois voir ça comme épique, c'est magnifique à voir, mais là c'est encore plus, y a un dépassement de soi qui est encore plus important, je trouve. Et parce que moi, de toute façon, valide ou pas valide, dans tous les cas, les 100 mètres, je ne les fais pas, hein, vraiment. Mais je trouve que c'est ça, c'est de pouvoir voir, c'est sortir cette émotion, ce spectacle, la fierté dans le regard de chacun, des sportifs, des familles. Que, genre, c'est... Moi, je trouve qu'il y a un dépassement de soi et que c'est exceptionnel. Donc, on ira voir ça sans problème.
Ouais,
donc,
il faut vous dire un truc, c'est que. Courir un 100 mètres chez une personne valide, donc chez les hommes, le record il est à 9,60 ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, 9,60. Ouais,
quelque chose comme ça. Et là, vous avez des catégories qui vont courir en 17 secondes. Mais ça ne veut pas dire que l'exploit n'est pas incroyable. L'exploit, il est incroyable au regard de vos capacités. C'est ça l'enjeu, en fait. Et c'est ça ce que vous allez voir. Oui, vous avez des capacités qui ne sont évidemment pas celles d'un athlète valide, sinon vous ne seriez pas en situation de handicap. Oui, mais par contre, courir 17, le 100 mètres en 17 secondes avec justement vos incapacités, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et c'est ça qu'il faut dire. En fait, vous allez voir un truc phénoménal. Quel que soit le chronomètre en valeur absolue, vous allez voir, c'est phénoménal.
Alors, on parlait de la cérémonie donc, d'ouverture, on parlait d'un grand DJ. Il y aura, je suppose, des grands noms du sport qui vont venir parrainer quand même cette journée.
Oui, oui. Alors,
il faut les inviter. Parce que c'est une seule et même famille. Hein, la famille olympique et puis paralympique, on l'a vu maintenant, ça forme une seule et même famille. Et ils y tiennent. Donc là, il faut les inviter.
Oui, ils sont déjà invités. On a quelques ambassadeurs à travers nos partenaires ou même en interne. Je pense à Johan Diniz qui est ambassadeur de l'événement. Par exemple, sur la
il
marche.
Il pour Décathlon maintenant, en plus.
Exactement. On va avoir Sacha Azoya qui nous accompagne et qui nous relaie aussi nos communications. Et puis, on a des ambassadeurs. On y tient soit en situation de handicap qui représentent le mouvement, mais qui ne sont pas forcément sportifs. Je pense à Grégory Cuilleron, par exemple, qui avait gagné Top Chef, à qui il manque un bras, un membre supérieur. Et puis, vous allez avoir effectivement des personnalités. On a Maxime Nézouan, par exemple, qui avait gagné Koh-Lanta, qui est aussi une des ambassadrices de l'événement.
Il peut y avoir Philippe Crozon, par exemple, qui est bien connu. Aussi
Il y a Philippe. Après, surtout, on a Roro Lecosto, qui est chroniqueur aussi sur certains grands médias. Vous avez Arthur Beaucheron, qui avait fait le buzz, qui est en fauteuil électrique. Qui est aussi un de nos ambassadeurs. Voilà. Il y a vraiment un pléthore de profils, à la fois sportifs et non sportifs, à la fois handy et ordinaire.
Oui,
et
parce que, par exemple, un Tony Parker, une Marie-Jo Perret qui pourraient venir quand même assister.
Tout le monde est bienvenu.
Non,
et effectivement,
ça joue médiatiquement, ça joue. Hein,
on est totalement d'accord. Pour ça aussi, d'ailleurs, j'en profite, qu'on a orienté pour mobiliser le plus grand nombre sur des concerts chaque soir. Donc, en ouverture de chaque session, vous aurez un concert. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il faut garder la temporalité d'annonce de la com. Mais en tout cas, il y aura des grands noms.
Tous les jours, il y aura un concert.
De 17h30 à 18h15, en ouverture de chaque session soir, il y aura un grand artiste, et je dis bien des grands artistes internationaux et nationaux, qui viendront ouvrir chaque session, ce qui permettra, nous aussi, de se dire je ne connais pas, et des fois j'ai besoin d'un petit coup de pied pour être poli, mais en tout cas pour me dire je déclenche le fait de venir sur ces championnats du monde. Et donc je vais y aller peut-être pour l'artiste au début, et puis je vais repartir avec un spectacle phénoménal dans le stade à travers ces athlètes paralympiques.
Oui, et les finales, donc ce sera le soir.
Tous les soirs de 18h30 à 22h à peu près. D'accord. Et ça sera diffusé en live sur l'équipe.
Oui, alors justement, ça va être la chaîne cible, la chaîne partenaire à l'équipe.
Oui, oui, on a plusieurs partenariats médias, mais l'équipe sera le diffuseur
français.
Ah bah
eux, c'est les principaux. Hein.
Exactement. Ouais. Après, je cite aussi le Parisien, notamment pour la presse écrite aussi, partenaire de l'événement. Mais en tout cas, l'équipe sera...
Nous, on sera là pour la radio.
Exactement, vous serez là pour la radio. On a plein de partenaires. Et on a besoin de tout le monde, de toute manière,
bien sûr.
Relayer. Hein, on l'a dit avec Élie, la médiation fera que ce sera une réussite populaire le jour J aussi. Et plus on en parle en amont, comme vous le faites aujourd'hui, mieux c'est pour nous, clairement.
Et le 14 juillet, comment vous allez faire? Il y aura le feu d'artifice en même
alors,
temps
en fait, on, 13, on s'est rendu compte de ça, c'est génial, c'est que la patrouille de France passe au-dessus du stade.
Oh là là, fabuleux.
Sans le vouloir, mais c'est très bien, on l'aura, on pourra le dire. Donc non, elle passe parce que c'est sur le chemin.
Il y aura le défilé.
Il y aura le défilé.
Et oui, il y aura le défilé, donc il y a la patrouille. Mais le soir, par exemple, du 14 juillet, est-ce qu'on va finir plus tôt? Est-ce qu'on va coller jusqu'au feu d'artifice pour ensuite?
Non, ça, comme on est assujetti au programme de la fédération internationale, c'est un dé national, donc certes très important pour les Franciliens et les Français, mais dans le planning, on aura le même planning tous les jours, 14 juillet ou pas, ça sera vraiment le même spectacle. Après, peut-être le concert sera un peu mieux.
Oui.
Je fais un peu de teasing pour ceux qui veulent acheter les billets du 14.
Les gens qui vont être spectateurs, ils pourront enchaîner sur le feu d'artifice après s'ils veulent.
Ah, bien sûr, puisque les épreuves vont se finir vers 22h chaque jour, donc comme le feu d'artifice est vers 23h, 23h30, ils auront largement le temps d'aller au Champ de Mars après pour aller regarder le feu d'artifice de la mairie de Paris.
Alors le prix des places, justement, on en parle, donc ça y est, déjà beaucoup de places sont vendues.
Alors, on est à 10 000 places vendues, mais on en a 300 000 à vendre, donc il y a encore un bel effort. C'est une belle tendance, hein, parce qu'on sait que les places vont partir plutôt à horizon mai-juin, dernière minute. Et on est sur une gamme de prix allant de 10 euros à 20 euros, pour faire simple. Et pourquoi cette tarification? C'est clairement, on s'est dit, voilà, les Parisiens, les Franciliens qui ne partent pas en vacances, bah, c'est le prix d'un cinéma ou c'est le prix d'une sortie au zoo. Ou, voilà. Donc, on est dans cette gamme de prix de se dire, bah, je suis avec ma famille, j'ai un championnat du monde à Paris. Eh ben, c'est un choix après qui m'est offert de découvrir ce monde phénoménal et de se dire bah, voilà, aujourd'hui, je peux aller au zoo, je peux aller à la piscine, je peux aller au cinéma, au bowling, peu importe. Pour le même prix, je peux aller aussi au championnat du monde de para-athlétisme et voir une expérience incroyable, des athlètes incroyables qui ne viendront que un an après pour les Jeux paralympiques. Mais pendant un an, au moins, j'aurais découvert un monde sportif, professionnel et avec une expérience spectateur incroyable.
Et ceux qui veulent acheter des billets le font tout de suite déjà en ligne ou les guichets seront ouverts ou...
Alors, c'est déjà ouvert donc sur le site wpaparis23.com. N'hésitez pas, wpaparis23.com, à aller acheter vos billets et à travers tous les canaux. Et puis, vous avez des flash codes aussi. Il y a des différentes campagnes de promotion actuellement dans les métros, sur les bus, dans Paris. À chaque fois, il y a des flash codes et ça vous renvoie direct sur la billetterie. Donc, si vous voyez l'affiche de l'événement, n'hésitez pas à flasher le QR code et vous allez direct sur la billetterie. Et après, sur place, bien sûr, le jour J avec les guichets.
Ah oui, d'accord, les guichets seront quand même.
Sauf si on est sold out avant.
On espère.
Non, mais bien sûr.
En tout cas, c'est prévu que ça soit ouvert le jour J.
Bon, Fosco, donc le comité départemental qui va naturellement s'investir aussi à sa manière.
Oui, bien sûr, avant et pendant, puisque je pense, enfin, je représente aujourd'hui Vincent Lassalle, qui est le président du comité départemental handisport de Paris, que vous connaissez. Et donc, le comité sera présent sur cet événement très important.
De quelle manière? Ils vont être bénévoles? Ils vont être. Non? Il va y avoir des actions en parallèle?
Ça, je pense que ce sera en accord avec le programme, etc. Mais en général, c'est de l'information, de la sensibilisation, je ne sais pas s'il y aura concrètement le temps de faire des actions du genre démo ou initiation, comme on fait souvent. Mais tout ce qui est possible de faire sera mis en place.
Juste pour compléter, effectivement, dans le cadre du partenariat qu'on a avec la mairie de Paris, on fait appel effectivement au CDH75 pour organiser dans les écoles notamment des sensibilisations, ce que tu évoquais.
C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais,
voilà, on va engager le public et effectivement, on travaille avec le CDH de Paris pour se dire aujourd'hui, comment on va plus loin,
2028 et 2032. Hein,
oui, former autres générations. Et donc, ça passe des fois à travers des interventions d'athlètes dans les écoles. Et ça, on est un peu, on va dire, autonome. Hein. Mais par contre, dès qu'il faut mettre des activités en place, on fait appel à nos experts locaux, qu'est le CDH 75.
Oui, on a vu ministère de l'Éducation nationale, Académie Île-de-France, École Ville de Paris, effectivement, les écoles d'athlétisme.
Aussi, oui, on a un partenariat.
Les centres animation jeunes de Paris, et puis naturellement les associations sportives de jeunes en situation handicap.
Exactement, on mobilise vraiment tous les réseaux. L'idée, c'est de se dire, notre enjeu, c'est de remplir ce stade, de le remplir tous les jours, toutes les sessions. Et donc pour réussir ce challenge, qui est quand même un défi plus qu'ambitieux, il faut mobiliser tout l'environnement. Donc ça passe de l'État jusqu'à la petite asso de quartier où il y a 3-4 adhérents. Il faut que tout le monde s'engage à travers ces championnats du monde. Ça, c'est vraiment le point de bascule avant les Jeux. Les Jeux en seront un deuxième point de bascule parce qu'on passera encore à une autre étape. Mais il faut déjà se dire, on est prêt à remplir 15 000 personnes chaque session pour être sûr de remplir tous les stades et pas que l'athlétisme pour les Jeux paralympiques. Et donc, ce point de bascule, il faut qu'on le réussisse tous ensemble.
Bien sûr. Et vous êtes comment vous dormez bien?
On dort très bien.
On dort bien.
Dort pas beaucoup, mais on dort bien.
Parce qu'il peut y avoir naturellement une petite appréhension, même si on est rodé.
Oui, il y a toujours une appréhension.
Il y a quand même un...
Après, notre défi, c'est vraiment de remplir ce stade.
Il y a un pari. À gagner. Quoi.
C'est ce pari gagnant qui est d'ailleurs notre baseline. Et c'est aujourd'hui de se dire... On veut réussir ce championnat, pas tant sur la partie organisationnelle, parce que ça, effectivement, on le maîtrise, et bien sûr, c'est plus gros, bien sûr, il y a plein de détails à régler encore, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est être sur la vraie trajectoire de Paris 2024, et de se dire, on est un point de passage plus qu'important pour le milieu paralympique. Alors là, on ne va parler que d'athlètes et de parathlétisme, mais la réalité, c'est qu'on va drainer derrière nous tout le parasport, et Elie est là pour le confirmer, c'est vraiment un enjeu de démocratiser tous les sports. Et d'ailleurs, il y aura un village animation dans le stade où toutes les fédés homologues et tous les sports gérés par la Fédération Handisport et Sports Adaptés seront proposés au grand public pour les découvrir. Donc là aussi, le CD sera engagé. Mais c'est vrai qu'on se doit de porter à travers cet événement. Et pas que, il y a d'autres événements, je parle des Global Games à Vichy aussi, enfin, il y a plein d'autres événements qui vont étayer cette année, mais en tout cas celui-là est quand même un événement majeur.
Mais on va le gagner, c'est pareil.
Oui, bien sûr, parce qu'on avait comme référence les Paralympiques de Londres, hein. Ça a été le modèle. Hein.
Oui, c'est le modèle, et en même temps, c'est un exemple, ce n'est pas le modèle.
Ouais.
C'est un exemple parce qu'ils ont fait plein de choses bien, mais par contre, en termes de modèle, pas forcément, parce que nous, on a aussi un certain nombre de spécificités françaises, on est organisé différemment, on n'a pas le même rapport au sport, on n'a pas le même rapport au handicap, et donc il faut aussi travailler ça de manière très singulière. Il faut faire les jeux comme on a envie de les faire et comme on veut les faire, c'est-à-dire qu'on veut... Faut pas copier le modèle de Londres. Ouais. Il y a plein de bons exemples à prendre, mais il faut les faire comme on sait les faire. Et on va le gagner, c'est pareil, parce que vous étiez à la journée paralympique.
Oui.
Bon, il y avait plus de monde qu'à la journée olympique.
Oui, il y avait plus de monde qu'à la journée olympique.
Il se passe quelque chose.
C'est vrai, il faisait beau.
Exactement. Il se passe quelque chose autour du paralympisme en France.
Oui.
Et donc, peut-être qu'on fera pas 20 000 places tous les jours, mais au fond, c'est pas grave. Si déjà on commence à se dire que la médiatisation est réussie et à Valle-d'Aile, vous êtes tous au rendez-vous et je pense que les partenariats médias vont y contribuer, mais on va avoir une couverture médiatique qui va être considérable. Si la ferveur est au rendez-vous autour de l'équipe de France et l'équipe de France est en train de se préparer, si par ailleurs on arrive à vendre des milliers de billets tels que ça se profile aujourd'hui, on va réussir ce pari. Il faut maintenir l'attention jusqu'au bout, mais on va réussir ce pari parce que dans un an, on accueille les Jeux et vous allez voir que les Jeux paralympiques vont être le cherry on the cake. Quoi. Ça va vraiment être le truc qui va faire que les Jeux de Paris seront inoubliables, c'est parce que les Paralympiques, on les aura réussi.
Oui, bien sûr. Et puis bon, aller côtoyer, Valentin a un peu abordé le sujet tout à l'heure, ce sont les espoirs qui sont faits, mais ce sont des sportives et sportives, mais exceptionnelles au niveau du mental, quand on voit un optimisme, une joie de vivre.
Oui, et puis surtout...
Hein, quand on voit notamment Alexis en quinquant, c'est quand même quelqu'un qu'on a interviewé, mais il pète l'optimisme. Hein.
Mais bien sûr, mais parce qu'en fait...
C'est ça qui est phénoménal.
Mais parce qu'en fait, on a trop eu l'habitude de décrire les personnes en situation de handicap comme des gens accablés par la vie et ramenés uniquement à leur handicap, à leur accident, à tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est pas que ça. Ça fait partie de leur vie, leur handicap, mais c'est pas que ça. Ils ont aussi des choses qui se passent bien dans leur vie. Ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de prouver des choses, ils ont envie de se dépasser. Et donc, en fait, le sport paralympique, ça nous permet de dépasser ce sur quoi on est toujours rivé sur une personne en situation de handicap, c'est-à-dire ses incapacités. Eh bien non, le sport paralympique, ça montre les capacités des gens. Mmh. Et c'est ça qui est phénoménal dans les sports paralympiques et dans les parasports de manière générale. On arrive à parler du handicap différemment et pas seulement avec cette vision apitoyée que l'on peut avoir et très compatissante, dont franchement, les gens en ont plus qu'assez. Et les athlètes, les premiers, en ont plus qu'assez.
Bien sûr. Et beaucoup vous disent, mais j'aurais pas eu la vie que j'ai eue si j'avais pas été, ce qui paraît paradoxal, hein, handicapé, quoi.
Oui, mais ce qui doit nous interroger aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que, parce que parfois il y a une surprise sur le fait que quand on est en situation de handicap, on peut encore faire quelque chose. Mais oui, c'est la vérité et le sport est là pour le montrer.
Et puis quand on voit aussi une fille comme Antonine qui a été, on s'en rappelle du message très fort qu'elle a vu sur Lima, on y était aussi. C'est une fraîcheur de vie, quoi. C'est un enthousiasme de vie.
Oui. Ça vous rappelle.
Ça avait beaucoup marqué, hein, son message.
Mais bien sûr, parce qu'une athlète en déficience visuelle, elle voit un peu Antonine, mais déficience visuelle, qui vous parle de sa vision des Jeux de Paris 2024, de ce qu'elle a envie de voir à Paris 2024. Mais en fait, c'est contre-intuitif et en même temps, c'est l'essence de ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle est en train de raconter le fait que, elle a des émotions, elle vit des choses positivement et en dépit du handicap, le handicap devient secondaire et ce qui devient primaire, c'est les choses qu'elle ressent, les choses qu'elle vit et c'est ça le sport.
Je bois les paroles de lui. C'est vrai et on parle souvent de singularité et en fait le handicap est une singularité comme une autre. C'est une singularité, donc si on prend en compte cette singularité, qu'on adapte ce qu'on doit adapter dans le cadre d'une pratique sportive, les performances sont juste incroyables.
Et en Amérique, c'est comment le regard par rapport au sport handicapé? Il y a des moyens?
Just for you, Paul. In the US,
the
National Paralympic Committee, how was?
The US Olympic and Paralympic Committee. Yeah, they're the same, right? So I think the models are different all around the world of how disability sport is progressed. Some are just national federations, some have dedicated national Paralympic committees, and some have combined efforts. It depends whether or not there's government funding or whether it's privately funded throughout the world. There's a disparity across the world in all of the regions about how disability sport is funded and how it is promoted. And I think being on this stage and given the voice to be able to show people exactly what they can achieve, I think that raises the level of investment into the sport and into these athletes.
En gros, pour traduire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs modèles dans le monde, qu'aux États-Unis, l'olympisme et le paralympisme sont liés.
Oui.
Et qu'il n'y a qu'un seul. Voilà, nous, on
y arrive, hein. On y arrive, hein. Une seule et même famille. Ouais. Hein, mais bon.
Mais peut-être pour vous raconter une histoire par rapport à ce que disait Paul, moi, mes premiers Jeux paralympiques où j'étais véritablement en charge, c'était à Pyeongchang en 2018. Et puis, j'étais en train de regarder la piste de ski, des athlètes qui descendaient. Et puis, il y a un jeune gars qui vient me voir et qui était très touché, qui avait un handicap assez sévère. Je ne pouvais pas vous dire exactement lequel c'est, peu importe d'ailleurs. Mm-hmm. Et il venait d'un centre et donc il voulait échanger les pins parce que vous savez, au jeu,
les symboles,
très culturel.
Les mascottes ou les pins.
Le gars donc, voulait le pins de l'équipe de France, donc je lui donne le pins de l'équipe de France, il me donne son pins, et son pins c'était le pins de son centre, et son centre c'était Center for Abilities. Ouais. Center for Abilities, le centre des capacités. Ouais. Et moi j'avais trouvé ça juste génial en termes de changement de prisme. C'est-à-dire qu'on n'était plus en train de parler des incapacités de ce garçon, elles étaient sûrement très nombreuses, et nous on aurait été dans un établissement spécialisé machin, en ramenant toujours à la question des incapacités, et eux étaient en train de nous présenter la question des capacités. Et je trouve que c'est vraiment, et c'est ce que dit Paul là, c'est-à-dire que c'est une autre vision des choses. Ouais. et on y arrive nous aussi petit à petit.
Oui, et puis en Amérique, il y a une dimension. Hein. Tout est énorme, tout est gigantesque.
Ce qu'il rajoutait, c'était la mise en lumière, quelle qu'elle soit, contribue au développement des pratiques. Et qu'après, quel que soit le modèle, il y a déjà la base, c'est de le mettre en lumière et de le valoriser.
C'est ce que j'avais envie de dire. Ouais. Une des enjeux fondamentaux de cet événement, c'est de mettre les projecteurs et que ça donne envie à des jeunes, à des adultes en situation de handicap, en situation d'habilité diminuée, mais tout de même de faire du sport,
de se rapprocher.
Et donc, si vous permettez, je fais une mini pub pour le comité départemental. S'il vous plaît, enregistrez cd75@indisport.org parce qu'en fait, c'est la mission du comité départemental de mettre en liaison des personnes qui découvrent peut-être qu'ils ont des capacités, des habilités avec les clubs, dans leur quartier, qui peuvent leur proposer des activités qui vont tout simplement permettre de s'épanouir,
de s'accomplir, hein.
De s'accomplir, d'envisager une nouvelle chose, des défis. Selon c'est des défis, c'est le sport en général. Mais voilà, c'est pas évident pour certaines personnes qui vivent peut-être encore dans des schémas est là pour les briser, ces schémas.
Et juste pour compléter, parce que c'est totalement vrai, c'est de se dire le sport, il y a la performance et les championnats du monde vont être une belle vitrine pour ça. Mais l'essence même, c'est déjà de pousser la porte d'un club en bas de chez soi.
C'est ça.
Et que mettre en lumière, c'est pas que la performance, c'est pas que les championnats.
Il y a toute l'aventure humaine aussi.
Mais il y a tout le démarrage de se dire, à côté de chez moi, il y a un club. Et ce club-là, il va me proposer des activités simples et adaptées à mon niveau. Je ne serai pas champion paralympique en un jour. Pour autant, si je veux le devenir, si je bosse, peut-être que j'y arriverai. Mais d'abord, il faut pousser la porte du club.
Allez,
je veux juste ajouter qu'effectivement, il y a un effort considérable qui est fait à Paris avec la création de clubs para-accueillants et des centres handi-jeunes qui permettent justement qui proposent des activités adaptées. Et ça, c'est formidable. Ça nous donne des perspectives magnifiques.
Voilà, ce qui nous amène donc vers une respiration musicale avec Ottawan Teoke. On y va.
Je veux quelqu'un qui m'aime.
T'as besoin de tendresse.
Voilà, donc cette émission, vous pourrez la réécouter naturellement en podcast. Juste un petit mot, tiens, ça fera plaisir à Fosco. J'ai des amis des Yvelines Saint-Arnaud en Yvelines qui m'ont donc envoyé un petit message. Il y a un tournoi National B de tennis de table à Saint-Arnaud le 1er mai. Donc vous pouvez vous inscrire avec des débuts d'épreuve à partir de 8h30. Voilà, c'est fait. J'avais promis donc d'en parler. On écoute le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport maintenant et ensuite. On va revenir sur le chapitre paralympique.
Bonsoir à tous. Alors, petite parenthèse enchantée cette semaine avec l'équipe de France. Pas la prolongation de Didier Deschamps, mais la nomination rafraîchissante de Kylian Mbappé en tant que capitaine. Le 4-0 contre les Pays-Bas. Bref, de belles promesses de ces jeunes bleus avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 25 ans à peine contre les Pays-Bas qui ont largement de quoi nous proposer des choses magnifiques au cours des prochaines années. D'ailleurs, le capitaine l'a dit, quand on voit cette équipe, difficile de ne pas penser que l'on peut être champion d'Europe en 2024. Tu m'étonnes, Kiki, Griezmann est reparti pour au moins 2 ans dans ce rôle de milieu relayeur qui lui va si bien. La charnière Upamecano-Konaté nous rappelle celle de 2018, Varane ou Umtiti. Maignan est le digne héritier de Lloris, avec les pénaltys en plus. Et devant, autour du capitaine, Colomouani devrait enfin permettre à Deschamps de tourner en douceur la page Giroud. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes avant de jouer à Dublin. Et c'est vrai qu'en cette période anxiogène, avec les manifestations contre la réforme des retraites, les débordements dramatiques de Sainte-Soline, les bleus qui sourient, les bleus qui gagnent, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on est un peu excités à l'heure où on se parle. Car ce soir, c'est un nouvel épisode de l'équipe de France post-Coupe du Monde qui nous attend. Inutile de vous dire qu'on espère rien d'autre qu'un succès en Irlande pour nos bleus, avec un trio annoncé déjà, Colomouani, Giroud, Mbappé en attaque, qui promet. À propos de l'équipe de France, une petite info. Sur les 23 joueurs appelés par Didier Deschamps, aucun n'a été formé à l'OL, meilleur centre de formation français pourtant, ni à l'OM où Pablo Longoria est en train, lui, de tout révolutionner. Autre info, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est le PSG qui fournit le plus de joueurs aux Bleus, 5, mais un seul joue encore dans la capitale et lui, il n'a pas été formé à Paris. En attendant, pour terminer, 15 jours avant le prochain match amical de l'équipe de France féminine, le ou la successeur de Corinne Diacre n'a toujours pas été nommé la semaine dernière. Vous en parliez ici, Philippe. Jean-Michel Aulas annonçait Hervé Renard comme quasiment certain. Il reste d'ailleurs la piste la plus sérieuse, mais elle n'est pas encore officielle. Alors, je vous rappelle quand même que la Coupe du Monde féminine, c'est dans moins de 4 mois. Je ne sais pas si tout ça, c'est très sérieux.
Voilà, merci à notre ami Stéphane Desenclos et vous pouvez retrouver naturellement son coup de gueule sur le site du quotidien.fr dès maintenant. Allez, on va finir avec le chapitre paralympique. Je voudrais qu'on parle un petit peu quand même, Élie, des moyens parce que bon, ça manque même pour des sportifs valides. Hein. On sait que ce n'est pas toujours facile, comme on dit, de faire le mois, de pouvoir vivre. C'est encore plus compliqué pour les Paralympiques.
Ah oui, indéniablement. Alors, des progrès ont été faits. Je vais commencer peut-être par
par le tableau un peu noir avant de finir par une note un peu plus positive. Les paralympiques, les athlètes paralympiques ont été les parents pauvres des Jeux, évidemment, depuis des décennies. On a emmené des athlètes qui étaient tous amateurs sans revenus, vivotants de leur sport quand ils le pouvaient, enfin surtout vivotants de leur métier à côté du sport et s'entraînant comme ils pouvaient. On a encore des entraîneurs qui aujourd'hui sont des entraîneurs bénévoles, alors même qu'on affronte une professionnalisation grandissante dans le monde entier. On citait les Américains tout à l'heure, les Britanniques. Enfin, je peux vous dire que eux, ils sont effectivement dans des gros hôtels, ils ont des délégations avec des moyens absolument considérables, et donc on était encore dans un différentiel très fort. Il se trouve que quand même depuis quelques années, notamment grâce à l'arrivée des Jeux, des efforts assez substantiels ont été faits, notamment par le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport, mais aussi par les sponsors privés qui sont beaucoup plus au rendez-vous qu'ils ne l'étaient jusque-là. On était dans un différentiel de 1 à 20. À peu près entre un athlète olympique et un athlète paralympique. Donc c'est un facteur 20 de moyens supplémentaires pour un athlète olympique dans sa préparation. Et on est aujourd'hui plutôt de 1 à 5 ou de 1 à 4. Ce qui est à peu près le différentiel de préparation des Britanniques aujourd'hui dans la partie paralympique par rapport à leur partie olympique. Donc des efforts ont été faits, mais ça ne veut pas dire que les efforts sont suffisants. Ils ne sont pas forcément suffisants, notamment parce que ce rattrapage des moyens, il concerne un groupe limité d'athlètes. Or, il faut des relèves, il faut des jeunes, il faut des gens qui vont renouveler un petit peu vos générations d'athlètes pour faire en sorte que vous soyez performants à Paris, mais aussi à Los Angeles et à Brisbane en 2032. Et ça, c'est un effort qui doit se maintenir dans le temps, faire en sorte de réussir à aller chercher des nouveaux athlètes. Et ça, il faut évidemment des parcours qui soient plus sécurisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que franchement, des athlètes dans la galère, il y en a encore. Et c'est des galères qui sont longues et pénibles à vivre et qui font que parfois, alors même que vous avez un très haut potentiel, vous arrêtez votre carrière sportive parce que c'est trop pénible à vivre.
Oui, parce qu'il faut des fauteuils, il faut des appareils adaptés, tout ça, c'est un coût. Et puis, il faut aussi des entreprises qui vous donnent les moyens de vous entraîner.
Mais oui, en fait, vous avez besoin de matériel, évidemment, pour un certain nombre d'athlètes. Hein, et certains fauteuils vont jusqu'à 15 ou 20 000 euros.
Et oui, c'est ça, vélos, problème.
Et oui, 15 ou 20 000 euros. Ouais, parfois, il vous en faut deux ou trois. Hein. Donc, vous voyez un peu les investissements que ça suppose. Mais aussi parce que, en fait, quand vous êtes déjà en situation de handicap dans ce pays, eh ben, vous êtes déjà moins employé que la population ordinaire. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est largement inférieur à la population ordinaire. Donc en plus de ça, quand vous avez une carrière sportive à côté de ça, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un emploi adapté à votre handicap. Il faut que votre employeur soit d'accord pour aménager votre temps de travail, pour vous ménager des temps d'entraînement. Il faut que votre employeur soit d'accord pour que vous partiez des semaines et des semaines. Alors, il existe des dispositifs, ça s'appelle les CIP, les contrats d'insertion, les contrats d'image dans les entreprises. Jusque-là, ça concernait assez peu les athlètes paralympiques, c'est de mieux en mieux, mais malgré tout, il faut quand même que les planètes s'alignent. Donc, on a besoin de consolider un petit peu les efforts qui ont été fournis, on a besoin de renforcer les fédérations qui sont à la manœuvre dans la préparation des athlètes, il faut qu'ils puissent avoir les moyens d'accompagner leurs athlètes, et aujourd'hui, c'est le cas, mais peut-être pas encore suffisamment.
C'est ça, et c'est votre principal cheval de bataille actuellement, ça. Il faut dire, au comité paralympique, c'est quand même un fait très important. Ça.
On en a deux, des chevaux de bataille. On a évidemment les moyens, parce que sans moyens, on part pas. Et on a encore une délégation paralympique qui coûte moins cher que la délégation olympique, alors même qu'on a du matériel, on a plus de matériel. Bah oui, donc ça coûte moins cher et on est plus économe. Et donc à un moment donné, ça doit se payer, ça, parce que si on veut qu'on soit performant, il faut qu'on ait les moyens de l'être. Et les moyens de l'être, ça passe aussi par un encadrement qui est suffisamment dimensionné. Et puis l'autre point, c'est la visibilité. Il faut qu'on soit visible. Ce qui est invisible, on peut ne pas le traiter. Ce qui est invisible, on peut ne pas le prendre en considération. Quand on est visible, eh bien, on est obligé. Enfin, les pouvoirs publics s'emparent de la question, les sponsors s'emparent de la question, parce que vous mettez à avoir de la valeur, parce que c'est aussi un risque que de nous laisser sur le côté quand on est visible. Alors évidemment, on cherche la médiatisation, on cherche à être mieux connu, mieux reconnu, et que nos athlètes puissent, parce qu'ils sont mieux reconnus, aussi mieux vivre de leur sport. Et ça, aujourd'hui, on n'a qu'une minorité d'athlètes qui arrivent à vivre véritablement de leur sport.
Mais quand on tape aux portes, aujourd'hui, ça s'ouvre un peu plus facilement.
Oui, grâce à Paris 2024.
Oui.
Grâce à Paris 2024.
Mais le problème, c'est peut-être après aussi.
Vous ouvrez toutes les portes. Alors, il faut qu'on prenne les fers à gants avant la gueule de bois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de savoir. Enfin, on sait très bien qu'on va avoir un effet redescente après les Jeux. Évidemment, les pays ont connu cet effet. Un peu difficile parce que c'était la fête, c'était l'effervescence, on était tendu vers un objectif qui est considérable, c'est le plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on est tendu vers quelque chose qui effectivement occupe pas mal de nos journées et de nos nuits, mais qui nous anime, nous dynamise toute la journée. Bon, quand ça va s'arrêter, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on cherche et vers là où on va. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité d'organisation et de dirigeant du mouvement sportif, c'est de définir dès à présent quels sont les éléments d'héritage que l'on souhaite pour demain. On aura réussi les Jeux si ce qu'on a fait jusqu'en 2024 ne se casse pas la figure complètement en 2025. Ça veut dire qu'il faut avoir développé la pratique sportive pour tous les publics et avoir consolider cette visibilité que l'on n'avait pas il y a encore quelques années et que l'on est en train d'obtenir grâce aux Jeux.
Oui, alors justement, Tony Estanguet, sa préoccupation, c'est que la France devienne un pays sportif face du sport. Il y a la demi-heure à l'école, mais si on est handicapé, est-ce qu'on fait comme les copains? Est-ce qu'on fait quand même cette demi-heure de sport?
Il faut d'abord, parce qu'il y a 400 000 gamins en situation de handicap qui sont scolarisés à l'école ordinaire aujourd'hui. Mmh. 400 000. Mmh. Donc ils sont en classe, les gamins. Ils sont en classe et ils ne doivent pas être simplement des arbitres du match de foot. Ils doivent être des acteurs.
Et oui, c'est ça le problème. Ouais.
Et donc il faut adapter effectivement les formations des professeurs, les formations des enseignants pour qu'on puisse intégrer ces gamins qui sont dans vos classes, dans les activités physiques et sportives quotidiennes. Ces 30 minutes d'activité physique obligatoire à l'école, en plus tous les jours, ne doivent pas exclure les publics en situation de handicap. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, le COJO, le Paris 2024 sont très concernés par ce sujet-là. Il va falloir qu'on le maintienne, évidemment. Il faut qu'on multiplie le nombre de clubs qui accueillent. On parlait des clubs para-accueillants à Paris. Aujourd'hui, 1,15% de la population française est en situation de handicap. 15%. 1,5% des clubs sportifs se référencent comme pouvant accueillir une personne en situation de handicap. C'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'il faudrait en proportion. 10 fois moins. Donc on a un enjeu aussi considérable de multiplier le nombre de structures en capacité de vous accueillir près de chez soi. Quand on est en situation de handicap et qu'on veut faire un sport en loisir, vous ne faites pas 80 km pour trouver votre club. Vous le faites une fois et puis vous ne le faites pas deux fois parce que franchement, ça ne s'insère pas dans votre vie. C'est juste pas possible. Et vous, quand vous êtes valide, vous ne faites pas 80 km pour aller dans votre club. Donc il faut des clubs à proximité de chez vous, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi comme ça qu'on sera plus performant. Parce que si on a des clubs à côté de chez soi, on va avoir plein de gamins qui vont faire du sport dès le plus jeune âge, malgré leur handicap, en dépit de leur handicap, et qui vont peut-être constituer nos collectifs dans le futur, parce qu'ils auront été détectés comme étant performants. Mais ça ne fonctionne que si vous avez des clubs. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de clubs.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous seriez favorable à des Jeux uniques paralympiques et puis olympiques? Alors, je sais que ça pose des problèmes après de logistique, ça veut dire que ça serait monopolisé pendant un mois, quoi.
Alors, pour toutes les raisons opérationnelles qu'a cité Adrien tout à l'heure, j'y étais défavorable.
J'y étais défavorable.
Je suis en train de commencer à évoluer parce que je me dis qu'en fait, peut-être que nous-mêmes nous sommes mis des barrières.
Oui, justement, ça.
Des barrières. Aujourd'hui, la raison d'être des deux Jeux est multiple. D'abord parce que organisationnellement, c'est compliqué.
Oui, c'est
très compliqué. Mmh. 4500 athlètes en situation de handicap, 10 000 athlètes olympiques.
Oui, ça doublerait les...
Et vous savez, on est toujours dans une contradiction sur l'organisation des Jeux. On veut toujours que les Jeux coûtent moins cher. D'accord. Et les Jeux de Paris vont être les Jeux qui vont coûter le moins cher. Mais on demande toujours plus aux Jeux. On veut que les Jeux coûtent pas cher, mais on veut que les Jeux révolutionnent l'accessibilité dans tout le métro historique de la ville de Paris. On veut que les Jeux coûtent moins cher, mais on veut que les Jeux réussissent à réguler les inégalités en Seine-Saint-Denis. Les Jeux peuvent pas tout. Il faut se concentrer sur ce que peuvent les Jeux. Et je ne suis pas sûr qu'avoir 15 000 athlètes au lieu de 10 000 dans un même village, ça soit moins coûteux. Il va falloir qu'on définisse nos priorités. Mais là où je me disais que peut-être j'évolue un petit peu, pas complètement, mais un petit peu, c'est qu'il ne faut pas que ça soit le prétexte à des Jeux au rabais. Ce n'est pas le cas à Paris. Les Jeux de Paris 2024 ne sont pas des Jeux au rabais. Mais il ne faut pas que ça soit le prétexte de Jeux au rabais, notamment dans des pays qui n'ont pas envie d'organiser les Jeux paralympiques et qui sont obligés de le faire parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligés d'organiser les deux. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que la visibilité, la puissance des Jeux paralympiques soit visible pendant les Jeux olympiques et inversement, et à multiplier les passerelles. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe de France unique, olympique et paralympique, réunie sous la même bannière. C'est ce que Paris 2024 fait avec le même emblème olympique-paralympique. C'est la première fois, c'est la première fois que ça existe. Et donc, il faut qu'on arrive à multiplier ce type de symboles-là qui font qu'il y a peut-être deux compétitions distinctes, mais symboliquement, c'est la même chose.
Et puis, justement, il y a le prix des places aussi.
Alors,
si on veut que ça s'ouvre, même parmi les Paralympiques, il faut peut-être que tout le monde puisse avoir accès. Alors, vous me direz, ce n'est pas votre problème, c'est Paris 2024, mais quand même.
Oui, et effectivement. Mais en fait, ça montre bien que les deux Jeux ne sont pas exactement le même événement aujourd'hui et n'ont pas la même maturité. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de billets paralympiques qui vont être mis en vente. Ils ne le sont pas encore. Oui.
c'est des billets qui vont être accessibles.
Oui, et moins chers que...
Oui, moins chers, et qui vont venir renforcer l'expérience des Jeux Olympiques. S'ils vont venir la compléter, ce n'est pas, il ne faut absolument pas opposer les deux. C'est, ça va venir être un prolongement de la grande fête olympique qu'on va connaître. Vous allez voir, les Jeux Olympiques, c'est fabuleux. Hein. Enfin, même si ça coûte très cher, vous allez voir. Ouais. On va passer là 18 mois à avoir plein de mauvaises nouvelles sur les Jeux. Ça coûte cher, ça met le bazar, les travaux et tout.
On va tout oublier.
Et le premier jour, on va tout oublier. Parce que la magie des Jeux va l'emporter sur le reste. J'en suis absolument persuadé. Ah ouais. Eh bien, les Jeux paralympiques, ce seront le prolongement de cette fête-là.
Bon, c'est ce qui t'attend, Valentin.
Bah, je suis impatient, tout simplement. On va pas sentir. Ça fait monter la sauce et j'ai envie de voir tout ça à l'œuvre. Et puis, bah, c'est ça, de mettre la lumière sur le sportif, sur l'humain aussi, mais mettre avant tout sur la performance. Et moi, je pense que ça va être, il y aura un avant et après. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que c'est de plus en plus, on parle de développer le sport féminin, sport masculin, mais il y a les sports mineurs, mais il y a aussi les para-athlétiques, comme vous dites, les para-olympiques, qu'il faut de plus en plus mettre en lumière, parce que, bah, en fait, c'est ça. On en voit tous les jours et on ne fait pas attention, alors que moi, dans tous les cas, n'importe quelle performance, je ne le fais pas. Donc voilà, je pourrais participer à aucun des Jeux, mais je suis impatient de voir ça.
Bon, tu vas finir cette émission.
Je vais conclure une belle émission.
On va parler donc omnisport, le basket, parce qu'il y a aussi un très bon club de basket dans le 13e, hein, donc 25e journée. On va rappeler le Valois-Boulogne qui a été battu par le Portel. C'est ça.
Gros match du Portel. C'est ça, gros match du Portel contre le Valois, qui est considéré comme la deuxième meilleure, si ce n'est la première. Mais bon, Monaco tient quand même ce rang de tête depuis le début de la saison. Donc le Valois qui, il reste 9 journées, donc je pense qu'ils vont terminer deuxième sans problème. Mais c'est avec le Portel, gros match, grosse entame, et ils ont su terminer ce qu'ils avaient commencé, donc c'est très fort.
Nanterre qui a enfin renoué avec la victoire, 80-75 devant Nancy. Et puis le Paris Basketball qui est allé gagner à Cholet, 79-63.
Ouais, match plutôt compliqué, très défensif, hein, 63-79. Il y a toujours les fans de NBA qui vont revenir en mode c'est un petit score, c'est de la basket elite, c'est beaucoup plus physique que de la NBA. Et là encore, c'était très très défensif, 63-79. Tout le monde a joué vraiment du côté de Paris, tout le monde s'est montré, et que ce soit dans les tâches défensives et offensives. Et ils ont su terminer le match comme il fallait. Beaucoup de 3 points mis par Paris Basket, c'était un souci en début de saison, et ils ont l'air d'avoir corrigé un peu le tir. C'est un peu dommage que c'est à 9 matchs de la fin, quoi.
Donc on va rappeler que c'est Monaco qui est en tête avec 80% de points, hein. Deuxième Boulogne-Levallois 68%, le Paris Basket est 12e avec 44% et 14e donc Nanterre-Blois 36% et 16e donc Fos-sur-Mer, Pau et Nancy avec 33,3%. Ça veut dire que le Paris Basket va finir en milieu de tableau. La saison elle est finie dans quelques semaines.
Dans 9 matchs, hein, ça sera défini. Et puis non, quand même, j'aimerais revenir sur la défaite de Monaco qui est quand même importante, si c'était l'équipe B qui jouait. Ça a permis de faire tourner l'effectif en vue des derniers gros affrontements de la saison, et surtout il va falloir bien terminer sur ce qu'ils ont commencé, parce qu'ils font une saison extraordinaire. Donc ils ont été battus par Limoges qui est quand même en bas de tableau, donc ville de basket mais qui est en bas de tableau, un peu comme Nanterre qui est une ville de basket mais depuis quelques saisons, depuis leur titre de champion de France, a un peu de mal à remonter. Donc attention à Monaco, mais je pense que c'était juste c'est un faux pas, mais ça arrive, c'est en fin de saison, on fait tourner un peu l'effectif pour bien terminer, quoi.
Oui, parce qu'on va rappeler qu'il y a la saison régulière, et après il y a les playoffs, hein.
C'est ça, il y a les playoffs,
il faut se qualifier les 8 premiers, c'est ça, hein.
C'est ça, c'est comme le même système que la NBA, et puis l'année dernière on a eu un très très beau affrontement en finale de Lyon-Villeurbanne, l'Asvel face à Monaco. Donc je pense que cette année Lyon ce sera peut-être compliqué, mais bon, ça reste l'Asvel, ça reste un club historique de basket français, donc qui sait, on espère voir Monaco en finale.
Alors justement, c'est fini pour le volley, la saison régulière.
C'était le dernier match, c'est terminé.
26e et dernière journée, donc Paris s'est imposé devant Cambrai 3-1, victoire du Plessis-Robinson à Toulouse 3-1, donc ça les sauve, le Plessis-Robinson, ils se maintiennent finalement.
Ils se sont sauvés derniers instants, dernière minute, donc c'est ce que fait ressentir le sport, c'est magnifique. Et puis pour Paris, ils finissent sur une bonne note. Bon, je pense qu'il faut oublier cette saison qui a été plus que compliquée. Ouais. C'était une victoire par-ci, une défaite par-là, un enchaînement de 5 ou 6 défaites d'affilée. Ça a été dur, mais comme je l'ai dit, il y a des jeunes dans cet effectif, il y a quelque chose à faire. Je pense pas qu'ils vont forcément changer de coach. Je pense qu'il y a un groupe à faire évoluer, et je pense que ça va aller dans le bon sens.
En tout cas, ils vont tous finir en milieu de tableau, hein, le Paris FC, le Paris Basket et le Paris Volley.
On se soutient entre clubs parisiens, apparemment, à part le Paris Saint-Germain qui survole comme chaque année, mais pas les mêmes moyens.
Effectivement, donc Tours en tête avec 61 points, devant Nantes 3e 55, le Paris Volley est 9e avec 31 points. Et 12e, donc le Plessis Robinson, on l'a dit, qui s'est sauvé 26 points et qui devance Nice 13e, 24 points, et Cambrai 14e, 10 points. Un petit mot de moto, puisque ça a été la reprise au Portugal.
Le premier
MotoGP
de la saison. Hein. C'est ça. Bah, oui et non, dans le sens où un week-end compliqué au début pour les Français, à part Johan Zarco qui termine 4e, qui dans le dernier tour a su passer de la 6e à la 4e place. Donc ça, c'est une très grosse performance pour lui qui avait beaucoup de difficultés la saison dernière. Et c'est Fabio Quartararo qui, lui, par contre, qui avait mal terminé la saison parce qu'il avait perdu son titre de champion du monde, enfin qu'il allait avoir à 5-6 journées de MotoGP de la fin. Là, il a eu du mal. Il finit 8e. C'est une petite 8e place je sais pas comment dire, mais ça a été très difficile en fait tout le week-end, même la course sprint juste avant. Il finit 10e, il a beaucoup de difficultés avec sa moto. Il disait la saison dernière qu'il prenait plus aucun plaisir sur son bolide. Ah. Il l'avait dit à Yamaha, il l'avait expliqué aux ingénieurs, et là ça se confirme de plus en plus. Donc Francesco, l'Italien, qui on prend les mêmes, on recommence, il repart de plus belle, premier.
Il est content, il
est heureux, hein. Il faut bien un Italien qui réussit quelque chose.
Il y avait Agostini, puis il y avait Rossi avant aussi, pour la moto.
C'est ça,
hein.
Énorme légende de la MotoGP, bien évidemment, mais là c'est vrai qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc, et puis il a fini largement devant, donc ça promet pour la saison, parce que c'est, comme je dis, Johan Zarco qui avait l'habitude de finir entre la 15e et 10e place. Là, 4e, moi je vois bien faire une grosse saison. Enfin, je l'espère en tout cas pour lui, et on espère que Fabio aussi sera remonté et prendre du plaisir sur son bolide.
Voilà, puis un dernier petit mot, c'était un des événements de week-end, la victoire de Christophe Laporte, 4e français à gagner Grand Wevelgem, hein, après Anquetil, Bernard Hinault et puis Philippe
Beaumont. C'est ça. Ouais. C'est tout simplement historique, et ça fait... On ne met pas souvent de la lumière sur ce qu'on considère comme des sports mineurs. Pour moi, il n'y a pas de sports mineurs, tous les sports sont importants, et là, on le montre encore que allez voir la performance.
On l'avait vu sur les routes du Tour gagner une belle victoire, la seule française l'année dernière dans l'Otakaor.
C'était pour peu se réconforter, et là, c'est encore magnifique ce qu'il a accompli, donc allez regarder ça, je vous le conseille fortement.
Très bien, merci.
C'était un plaisir.
Rendez-vous la semaine prochaine. Fosco, un dernier petit mot.
Vive le sport, vive l'Italie. Sport. On va tout faire pour que ce soit, comme vous disiez, une fête populaire, qu'elle plante des graines, que nous on essaiera de faire
pousser.
De faire pousser pour que beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes se mettent au sport, regardent le sport, viennent au stade, et puis voilà, que ça se prolonge dans les années. Voilà, on va tout faire avec nos activités, en communiquant avec notre page Facebook,
nos réseaux,
du CDH 75, avec tout ce qu'on peut faire. On sera, je l'espère, aussi contaminer d'autres personnes à être bénévoles, à vous aider pour réaliser ce rêve.
Élie, donc le mot de la fin pour le comité paralympique.
Je vous souhaite d'être pris par ce qui nous est arrivé à nous tous qui avons vécu un jour les Jeux paralympiques, c'est-à-dire de se dire qu'on est attiré par ça, c'était bien, mais en fait c'est plus que bien, c'est absolument magique. Et c'est ce qui va se passer dès la deuxième semaine de juillet à Paris et l'année prochaine en 24. Donc je vous souhaite vraiment de vivre ça. Et donc pour vivre ça, il faut venir au stade. Et donc venez au stade.
C'est ça. Et contactez-nous, on sera là pour vous accompagner.
Avec plaisir.
Voilà. Et puis on va remercier aussi notre ami organisateur, Adrien.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
C'est un plaisir, donc n'hésitez pas aussi. Et puis on va remercier notre ami
Paul.
Thank you, Paul.
Thank you very much for having me.
Ah ouais, voilà, ça a été un plaisir. Et puis tiens, je voudrais qu'elle prenne pour finir le micro, parce qu'on va tous être sur une chaîne YouTube, donc elle va nous expliquer un petit peu sa chaîne et où est-ce qu'on pourra retrouver cette émission.
Bonjour à tous.
Bonjour Tania. Elle était venue pour le foot américain il y a quelques semaines, donc elle va nous dire effectivement.
J'étais venue pour le foot américain, mais je suis moi-même handicap invisible.
D'accord.
Et j'ai filmé il y a peu la Women's Cup à Paris rugby fauteuil avec Salem.
Oui.
Voilà, Riyad Salem avec Cédric Nankin, avec un sport qui mérite d'être connu aussi, parce que ce sont peut-être des jolies femmes, mais elles sont. Elles sont percutantes, performantes.
Ouais, justement,
et elles jouent avec des hommes aussi. C'est
ça tombe bien
sport
de parler
d'équipe.
De rugby fauteuil, parce que je crois qu'au mois d'octobre, il y aura des épreuves
exactement,
du championnat d'Europe à Carpentier.
Dans le 13e, à Carpentier, à Bercy, à l'Open Accor Arena.
Du 18 au 21 à Carpentier, et le 22 octobre à Bercy.
Voilà, voilà, j'invite tout le monde.
Eh oui.
Ah bah voilà. J'ai votre carte, donc on va communiquer. Mais c'est un sport formidable. Il y en a d'autres en paralympique, mais voilà, je viens de le découvrir il n'y a pas si longtemps. Et même l'organisation CAPSA, tout ça, c'est un monde à connaître.
On connaît bien.
Franchement, c'est
ce qui vient de se dire là pendant une heure et demie.
Ce qui vient de se dire. Ah ben, vive les Jeux, j'attends que ça, donc je vais être bénévole aussi, se mettre en place, et venez tous voir le sport olympique, parce que le sport c'est la vie, et ceux qui n'ont pas de sport ont beaucoup peu de moyens dans la vie de réagir à leurs problèmes quotidiens.
Voilà, bah, ça sera
c'est une aide formidable, physique et psychique.
Ça sera un beau mot de fin. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Ouais, ça va être l'heure pour le restaurant.
Je rappelle c'est juste la chaîne YouTube, parce que c'est ce que je n'ai pas dit.
Ouais.
Alors ça s'appelle Tania avec un Y.TL7 Sport Event pour la chaîne de sport. Et voilà, je vous invite tous à y aller, je vous enverrai les liens. Il y a déjà le handisport, le rugby fauteuil, la première partie, parce que pendant les 3 jours, je n'ai pas pu tout faire, je fais le montage. Et le reste, l'émission de ce soir, tout sera dessus. Donc allez-y tous, et j'attends les Jeux Olympiques avec ferveur.
Merci Tania, après cette émission à 20h45. Merci à Jason d'avoir mis une nouvelle fois donc cette émission en forme et puis en ligne. Et puis on finit avec Mike Brandt, c'est ma prière. Il y a les photos avant de partir. Allez, bonne soirée à tous et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Si tu entends ma prière.